Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mélanie.
Bonjour.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre, tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Et oui Julia, avec nous du lundi au vendredi, on vous parle de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie personnelle à la maison ou au travail. Bref, je crois que c'est clair, ici tous les matins, on prend soin de vous.
Et dans Bien fait pour vous, nous partageons bien sûr tous nos meilleurs conseils, nos bons plans, mais on vous donne également la parole. D'ailleurs, n'hésitez pas, on attend vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur Twitter, sur le hashtag Europe 1.
Chaque matin, il faut le savoir, on attaque cette émission en se posant ensemble une question de notre vie quotidienne. Aujourd'hui, la voici, c'est la rentrée. Cette année, comment mieux dormir? Et là, dans l'immédiat, comment faire pour faire comprendre à notre corps que notre horloge biologique estivale, eh bien, il faut peut-être la changer d'heure.
Et oui, Mélanie, se recaler à l'heure de la rentrée niveau sommeil, horloge interne, hygiène de vie, tout ça, on donnera des conseils pour tout le monde, enfants comme adultes. Et pour nous y aider, aujourd'hui, notre invité, ce sera le professeur Pierre Philippe. Il est chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux.
Ensuite, dès 11h30, ce sera notre rubrique Tendance avec tous les jours un duo de chroniqueurs qui partent pour nous à la pêche de ces objets, de ces loisirs qui font le buzz ou qu'il faut absolument tester. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'écouter à nouveau Philippine Darblay. Elle nous dira qu'il y a des progrès du côté des gels hydroalcooliques où ils sont très utiles, mais ils peuvent aussi devenir presque un produit bien-être à suivre.
Et autour de la table, il y aura aussi Sophie Braffman, notre conseillère mode, tendance vestimentaire dans Bien fait pour vous. Avec elle, vous verrez que mode et économie circulaire peuvent faire la paire.
Enfin, à midi, dans la dernière demi-heure de l'émission, plus encore centrée sur notre santé, notre bien-être, aujourd'hui, on vous dira comment prévenir le diabète, en tout cas, certaines formes. On aime la prévention ici. Et on écoutera donc religieusement les conseils du diabétologue Fabrice Bonnet.
Europe 1.
Eh bien voilà, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre nouveau magazine pour être mieux dans son corps, dans sa tête. Et cela, attention, dès le réveil, parce qu'en ce moment, Mélanie, ça pique un peu, non?
Oui, Julia, surtout le vôtre, hein, je pense, si vous levez encore plus tôt, avec votre travail en plus, tôt le matin à la télévision. Bref, ce mercredi, notre question du jour, la voici, la voilà, c'est la rentrée cette année, comment mieux dormir, que l'on soit petit ou grand d'ailleurs.
Alors lui, il est grand, hein, il se lève tôt aussi, puisqu'il est tous les jours avec nous pour lancer notre premier sujet, c'est Clément Lanoux,
bonjour.
Bonjour. Alors, métro, boulot, dodo, fuseau horaire, tout ça, vous avez interrogé des gens à ce sujet.
Et effectivement, alors j'ai très bien dormi, si déjà c'est la première question.
On est content de le savoir.
Je m'endors moi assez rapidement, je fais partie de ceux qui s'allongent, bam, ils s'endorment, ils sont debout, ils se réveillent. Est-ce qu'il y a une bonne position pour dormir? C'est la première question que j'ai posée, et je l'ai posée à qui? Aux enfants, évidemment.
Moi, je dors les pieds dans le vide.
Dans le vide du lit ou dans le vide à ta fenêtre au troisième étage?
dans le vide du lit. Mon pied, il est après la barrière.
Toi, tu dors comment?
Je dors en forme géométrique inexplicable. L'avant de mes jambes est incliné à 45 degrés et le suivi de mes jambes à 90 degrés.
Moi, je dors comme lui, sur le ventre, avec les mains sous l'oreiller.
Parce qu'il fait genre que c'est son amoureuse. Voilà.
C'est quoi ta technique pour t'endormir?
Je vais sur les réseaux ou sinon je mets des écouteurs, de la musique et je m'endors. Ou sinon des fois je compte.
Et vous alors, vous comptez les moutons pour vous endormir?
Non, ça fonctionne pas.
Bah pourquoi ça fonctionne pas?
Parce qu'en fait tu penses tellement à quelque chose, du coup tu fais attends, il est où le mouton? Attends, je suis à quel chiffre ou quel nombre? Du coup ça va plus du tout.
On embrasse tous les bergers qui nous écoutent, qui s'endorment vraiment pour le coup en comptant les moutons. Je me suis tourné vers les adultes, je leur ai dit, est-ce que vous avez une vraie technique pour bien dormir? J'ai trouvé une femme qui en a deux.
Alors je dirais oui, deux. Alors un bon matelas déjà. Et un mari qui ne ronfle pas si possible, mais bon, ça c'est un peu plus compliqué quand même. Oui, c'est compliqué parce qu'à un certain âge, ils se mettent tous à ronfler.
Alors ça c'est un autre problème, effectivement. Sans mari, on dort mieux apparemment. Il n'y a pas que les maris et que les femmes qui peuvent être gênants. Il y a d'autres éléments dans une maison, dans un appartement qui peuvent empêcher un peu le sommeil, comme pour cette dame.
Ah, ma technique, j'essaie de fermer ma porte de la chambre parce que... En fait, j'ai un chat et oui. Il est tout le temps en train de miauler ou d'essayer de... En fait, son truc, c'est de ramener le tapis de la salle de bain dans la chambre. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il s'endort dessus. Et puis, il miaule la nuit. Il joue la nuit. Je ne sais pas. Il a des accès de folie à minuit et quelques. C'est mon petit souci dans ce moment. Donc, si vous pouvez m'aider à trouver une solution sur ça. Ouais, le chat, c'est un petit souci. Mais on l'adore.
Mais on l'adore.
Je sais pas si on aura des astuces sur les animaux domestiques, mais on verra
ce
avec notre invité.
Ce sera peut-être pour une prochaine émission, mais j'ai adoré le « mais on l'adore » à la fin, au cas où le chat écoute Europe 1 ce matin, il parle de moi là, sérieusement, avec ce petit regard. J'ai trouvé un autre secret pour bien dormir, le plus dur c'est de l'appliquer ce secret.
Moi franchement, je fais du sport, je bois que de l'eau, jamais une goutte d'alcool, je mange sainement,
Voilà, un esprit sain dans un corps sain.
Mm-hmm. C'est quoi que vous avez à la main?
Une coupette de champagne.
Et un voilà, menteur, quoi.
Je fais
en fait,
les micro-trottoirs en terrasse. Parfois, je fais des pauses, évidemment. Important de se désaltérer un petit peu avec modération, évidemment. Heureusement, pour nous aider, il y a de nombreux magazines. Et il y a une technique, notamment pour les insomniaques, dans ce magazine.
Moi, un jour, j'ai lu dans un magazine qu'il ne fallait pas se forcer. Si on n'arrive pas à dormir, ça ne sert à rien d'essayer de dormir. Donc, moi, ma technique, c'est à 2h du matin, je n'arrive pas à dormir. Je me lève et je suis active, je fais quelque chose. Alors, c'est bête, mais c'est vrai que je passe la serpillière, je repasse, je fais le ménage, mes lessives. Au bout d'une heure, je suis crevée, je dors bien.
Et vos
Julia, qui est-ce? Vous faites ça vous aussi?
C'est bien insonorisé, donc il n'y a pas de souci. Et l'avantage, c'est que c'est propre quand tu te lèves.
C'est pas mal. Si vous faites ça la nuit, c'est génial. Vous réveillez, c'est
ça.
Propre.
Mais bien sûr.
Ménage de nuit?
Mais j'adore et mes voisins m'adorent. Mais
venez chez moi la nuit, Julie.
C'est pas mal. Si vous cherchez une femme de ménage nocturne, contactez Europe 1, on la trouvera. Et enfin, je vous quitte avec la meilleure des techniques pour bien s'endormir. C'est peut-être ce monsieur qui l'a.
Pour bien m'endormir, je pense à des choses positives et je me rapproche de mon épouse. Je veux pas en savoir plus. C'est la vie, c'est l'amour.
C'est l'amour. C'est une réponse qui est beaucoup sortie. Un câlin avant de s'endormir, souvent ça apaise énormément.
Je suis sûre que c'est efficace. Merci Clément.
Je pense que vous essayerez, vous me direz.
On vous retrouvera bien sûr demain avec encore plus de reportages de terrain. Oui. Alors n'allez pas vous coucher tout de suite, on va accueillir ensemble notre invité, le professeur Pierre-Philippe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Vous êtes également l'auteur du livre Antifatigue qui est paru aux éditions Albert Michel. Alors avec vous, on va tenter de remettre un peu à l'heure notre horloge biologique. C'est quoi d'ailleurs précisément l'horloge biologique? Elle est dans notre cerveau, on l'a tous vraiment, c'est sûr?
Alors effectivement, on a d'abord décrit une horloge qui est située à la base du cerveau et qui est contrôlée par le noyau suprachiasmatique. Depuis, on a découvert d'autres horloges biologiques, en particulier il y en a dans les organes. Et donc c'est vraiment un chef d'orchestre qui régule le fonctionnement de l'ensemble du corps humain. Celle du cerveau, c'est un petit peu le grand chef d'orchestre parce que c'est elle qui donne la temporalité, par exemple, du rythme de la température, mais aussi du lever et du coucher. Donc elle est particulièrement importante pour vous dire à quel moment plutôt vous avez envie de vous endormir ou plutôt vous voulez vous lever.
On est d'accord qu'on est sur un rythme de 24 heures hein, sur cette horloge biologique, mais est-ce que c'est propre aux êtres humains ou pour les animaux c'est pareil?
On a entendu un chat tout à l'heure, bah oui, il avait l'air agité la nuit.
Alors pour être vraiment vraiment précis, on est plutôt sur un rythme un tout petit peu plus long que 24 heures, 24 et quelques minutes, ce qui fait que par exemple quand on veut aller aux États-Unis, c'est-à-dire se mettre en retard de phase, ou quand on veut l'été se coucher plus tard, c'est très facile. Et au contraire, quand on veut se lever tôt le matin, c'est-à-dire se mettre en avance de phase, c'est beaucoup plus difficile. Donc en fait, les synchroniseurs sociaux, c'est-à-dire la lumière, les contacts, les échanges avec les personnes, nous recalent en permanence sur 24 heures, mais on s'est amusé à faire des expériences en mettant des gens dans des bunkers, dans des grottes, ou maintenant dans des laboratoires comme le mien au CNRS. Et on a vu que quand on les laisse, les gens ils ont tendance naturellement plutôt à décaler leur horaire de coucher, qui s'explique par le fait que cette période est un peu plus longue. Et donc ce mécanisme-là, il est présent chez tous les êtres vivants, y compris les végétaux. Et donc tout le monde a une horloge, effectivement, qui nous permet d'avoir une rythmicité.
Clément, la vôtre d'horloge, elle est sur 24 heures
Moi, j'ai différentes horloges, justement, par organe, mais elles ne sont pas toutes à la même heure. C'est un peu le problème, ça dépend. Mais c'est pour ça qu'à chaque changement, il y a un des changements d'heure qui est plus difficile que l'autre. C'est pour ça, c'est peut-être que naturellement, on est plus...
Absolument, c'est-à-dire que naturellement, c'est beaucoup plus facile de passer en retard de phase, donc changeant d'heure d'été, et c'est plus difficile de passer... En
heure d'hiver, oui.
Voilà. Alors, ça se modère un petit peu avec le fait quand même que selon les changements d'heure, il y a aussi un impact sur la durée. Mm-hmm. Par exemple, quand vous passez sur l'heure d'hiver, vous allez avoir naturellement la possibilité d'augmenter votre durée de sommeil.
Oui.
Alors que l'été...
Avec la nuit dehors, avec tout ça...
Vous allez plutôt la réduire. Donc, en fait, on ne peut pas analyser le sommeil si on n'inclut pas en même temps... horaire et durée.
Okay.
Et les deux sont liés, vous le voulez bien en vacances, puisqu'en vacances, vous retardez votre horaire de coucher, mais aussi vous augmentez souvent la durée parce que vous n'avez pas des impératifs de réveil fixe.
C'est très scientifique.
Hein, ouais, très bien.
Professeur Philippe, vous restez avec nous. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le mécanisme de cette horloge interne. Pourquoi, après quelques semaines de vacances d'été, il est souvent difficile de se remettre en route? Faut-il se coucher plus tôt, d'ailleurs, pour remettre les pendules à l'heure? On y revient très vite. On en finit déjà, hein, c'est la promesse aujourd'hui, avec cette fatigue de la rentrée. C'est dans un instant et c'est bien sûr sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1.
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine pour être bien dans sa tête, dans son corps, dans sa vie quotidienne et surtout, surtout pour être au top de sa forme en cette rentrée. Je rappelle notre question du jour cette année, comment mieux dormir, comment mieux se recaler après les vacances d'été, Julia.
Et pour y voir plus clair, vous êtes toujours avec nous, professeur Pierre Philippe. Je rappelle que vous êtes chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux et également l'auteur du livre Anti-fatigue chez Albin Michel que nous montre actuellement Mélanie Gomez si vous avez...
Europe1.fr, bien
exactement.
Sûr.
Alors nous sommes en période de rentrée, que ce soit pour nous les adultes, mais aussi pour nous, j'allais dire pour nous les enfants, non, pour les enfants que nous avons été et pour ceux que nous avons. À cette époque de l'année, début septembre en général, dans quel état est notre horloge biologique, professeur ?
Ben, d'abord, a priori, notre corps est reposé, c'est-à-dire qu'on lui a laissé la possibilité de s'exprimer et d'obtenir le sommeil de la façon la plus adéquate possible. Donc, ça s'exprime sur l'horloge, bien entendu, sur le calage, hein, avec des horaires de lever et de coucher, mais aussi sur la durée. Mmh. Et donc, un élément très important qu'il faut rappeler, c'est que les Français ont plutôt tendance à pas s'allouer assez de sommeil. Hein,
C'est-à-dire en moyenne ?
Ben, la durée moyenne des Français, c'est entre 6h20 et 6h40. Mmh. La durée minimale requise, c'est 7 heures. Ah, 7 oui. fois 7, 49. 7 heures de sommeil par nuit, 7 jours par semaine. Pour les populations de 25 à 75 ans.
Pour retenir ce chiffre, hein, 49.
Voilà, 7 fois 7, 49. Voilà, c'est la bonne façon, c'est-à-dire... toutes les nuits, au minimum, s'allouer 7 heures de sommeil, y compris le week-end. Mmh. Un message important, je crois, à délivrer, c'est quand vous revenez de vacances et que vous êtes bien reposé, réfléchissez au nombre d'heures que vous avez dormi en vacances, parce que c'est peut-être celui dont vous avez besoin.
Celui qui nous a manqué l'année précédente,
exactement.
Quoi, c'est ça.
Et surtout, ne repartez pas sur un schéma où, avec des horaires de lever précoces et des couchers tardifs, vous allez recomprimer votre sommeil qui va expliquer toute la fatigue qu'on cumule dans l'année. Donc, ce premier élément, il est très important. Et si vous devez réajuster vos horaires de lever et de coucher, il faut essayer de le faire aussi par rapport à la durée optimale de votre sommeil. On a développé une application qui s'appelle Canopé, avec un K, téléchargeable gratuitement sur le Google Store et l'Apple Store. Ça permet justement aux gens de remplir des agendas de sommeil, d'avoir une idée un petit peu de leur durée moyenne de sommeil, pour avoir ce quota, comme le dit Mélanie, de 49 heures par semaine.
Voilà. Donc Canopé avec un K qui permet de faire un bilan gratuit de son sommeil, de son état de fatigue.
Et aussi d'avoir un accompagnement, parce qu'on a démontré que pour des gens qui avaient des plaintes d'insomnie, comme ça arrive souvent à la reprise du travail, avec le stress et puis les changements d'horaire, on a des programmes comportementaux dont on pourra parler qui peuvent aider au sommeil.
Bon, professeur Philippe, pour bien illustrer ça, dans votre livre, vous donnez un exemple sur le manque de sommeil, hein, je parle, et ressentir dans son corps finalement qu'effectivement ça va pas, ça tourne pas rond, on manque un petit peu de sommeil. Vous dites que veiller 24 heures sans dormir, pour l'organisme, c'est comme avoir bu de l'alcool, même sans en avoir bu du tout, on est d'accord, hein, c'est ça ?
Oui, alors, on pensait au début que le sommeil c'était produit par le cerveau pour le cerveau. En fait, on a développé un nouveau concept dans les années 2000 qui est la santé liée au sommeil, et on a montré que si vous dormez pas, par exemple, vos performances cognitives, votre temps de réaction va se dégrader, comme si vous étiez ivre. Mm-hmm. Mais on a aussi montré que, par exemple, votre métabolisme se dérègle et vous pouvez être plus enclin, par exemple, à avoir un diabète. C'est un sujet que vous allez évoquer.
Abordé tout à l'heure,
Et malheureusement, plus récemment, on l'a vu aussi, si vous êtes en dette de sommeil, vous êtes plus vulnérable aux infections. Et donc, ça peut être un facteur de risque, par exemple, pour contracter la Covid.
Donc, en gros, les dégâts du manque de sommeil sont à peu près les mêmes que l'alcool, hein, finalement, que trop d'alcool, qu'une consommation d'alcool trop importante.
En tout cas, c'est des dégâts qui impactent l'ensemble des organes du corps. Et c'est pour ça que bien dormir, c'est pas que aussi être reposé, mais c'est aussi bien fonctionner et être en bonne santé.
Julia ? Bien sûr. Alors, souvent, on explique aux parents que nous sommes que 15 jours avant la rentrée scolaire, ce serait quand même bien de remettre nos enfants sur le bon fuseau horaire. Donc, c'est super, hein, merci
c'est
beaucoup
raté,
pour ce conseil.
C'est demain.
Mais franchement, c'est hyper dur. Moi, je n'ai jamais pu appliquer cette règle. Pourquoi est-ce que c'est grave, professeur ?
Alors, d'abord, pourquoi c'est difficilement applicable ? Parce que nos modes de vie vont un peu à l'encontre de nos besoins de sommeil. Donc, quand vous n'avez pas de contraintes, comme par exemple en vacances, vous pouvez ajuster vos besoins avec vos souhaits de vie. Dans la vie réelle, en fait, on a tendance plutôt à vouloir se coucher très tard pour profiter des médias, des réseaux sociaux, voilà. Et on a une contrainte de lever. Donc, je pense qu'un premier schéma intelligent, c'est d'essayer de justement réallouer ce temps avant le coucher pour donner un maximum de plaisir à nos jeunes têtes blondes, mais en même temps leur permettre d'engager le sommeil. C'est-à-dire ne pas, par exemple, leur laisser accès aux réseaux sociaux au moins une heure avant le coucher, voilà. Et puis après aussi, bon, on va en parler après, le matin, c'est aussi une bonne façon de préparer le coucher.
J'allais vous dire, on va déculpabiliser tout de suite les parents qui nous écoutent et qui ont encore les enfants qui se coucheront peut-être ce soir à minuit ou un peu plus tôt quand même. Mais en fait, la clé pour se remettre dans le bon ordre et remettre son horloge à l'heure, c'est le lever en fait, c'est pas le coucher.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de messages qui circulent sur les réseaux sociaux en disant il faut se coucher toujours à la même heure. Et c'est pas comme ça que ça marche. Non. En fait, ce qui conditionne votre endormissement, c'est votre durée de veille. Et la durée de veille, elle est calée par l'heure de lever. C'est-à-dire que c'est l'heure de lever qui va conditionner au bout de combien d'heures de sommeil vous allez avoir une pression suffisante pour vouloir vous endormir.
Bon, de toute façon, demain, tout le monde va se mettre d'accord. Hein.
Le réveil va sonner à 6h et puis hop,
voilà.
C'est parti.
Donc, on risque rien, même si on ne s'est pas bien recalé. Qu'est-ce qui va se passer? Un bon coup de fatigue et puis ça repart, non?
Alors, en fait, ce qu'on risque, c'est ce à quoi on est confronté maintenant, c'est-à-dire une dette chronique de sommeil avec une augmentation de consommation des substances éveillantes, avec quand même beaucoup de fatigue et de risques associés, comme on l'a dit, de prise de poids, de problèmes métaboliques.
Donc, mais pour nos enfants, en tout cas, pour demain, ils seront un peu fatigués. S'ils ont la première journée d'école, ce n'est pas là où on travaille le plus les tables de multiplication en général. Alors, donc ça va aller.
Alors, effectivement, vous avez raison. À l'aune de 1, 2, 3, 5 jours, ce n'est pas dramatique. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les enfants, ils ont des besoins beaucoup plus importants, de l'ordre de 9 à 11 heures de sommeil que les adultes. Et souvent, le schéma social, c'est les enfants et les adultes dorment presque sur le même rythme. Ça, c'est pas bon.
Oui, bien sûr.
Donc, il faut aussi expliquer aux parents et aux enfants que, en fait, ils ont besoin de ça. Et bon, globalement, si le schéma d'activité est associé à ça, ça se passe bien.
Alors, j'ai souvent entendu dire que la lumière naturelle, le matin au réveil, ça fait beaucoup. C'est très bien pour notre horloge biologique. Mais le problème, c'est que ça ne va pas durer parce que bientôt, on va se lever et il fera nuit. Pour ma part, il fait nuit depuis bien longtemps. Alors, comment on fait dans ces cas-là quand la lumière naturelle n'est pas là pour nous réveiller?
Alors, je l'explique assez bien dans Antifatigue. En fait, la lumière, ça a deux actions. La lumière, si vous la prenez le soir, ça retarde votre coucher. Si vous la prenez le matin, ça avance votre coucher. Donc, en fait, en fonction de l'heure à laquelle vous prenez la lumière, vous allez pouvoir ajuster vos lits. Donc, par exemple, un message important, c'est de dire à la rentrée, essayez de limiter votre exposition le soir. Parce qu'il y a encore de la lumière assez tard. Par exemple, à 17h-18h, si vous voulez vous retrouver avec des amis pour prendre un verre.
Faites-le, mais avec des lunettes de soleil.
Exactement. n'hésitez pas à réduire le signal le soir. Parce que si la journée, c'est plus compliqué, en particulier parce que vous allez avoir plus de difficultés à être exposé à de la lumière. En tout cas, le soir, vous pouvez agir. Et l'autre point aussi, c'est que la lumière doit être prise très tôt dès le lever. Donc, si vous pouvez, prenez votre petit déjeuner près de la fenêtre.
Oui, mais quand il fait nuit, on fait comment?
Alors, d'abord, quand il fait nuit, ça va être dans plusieurs semaines.
Enfin, pour Julia, en fait, elle parle pour elle. Non, je ne parle pas que pour moi, je parle aussi pour tous les gens qui ont des boulots avec des horaires décalés et qui se lèvent parfois à 4 à 5 heures du matin.
Alors là, Julia, si vous me permettez, c'est un autre sujet. Ça, ce n'est pas un sujet de recalage, c'est un sujet de calage à long terme. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Alors, si c'est très compliqué d'avoir des luminettes ou même avoir un halogène chez soi et allumer un halogène, parce qu'un halogène chez soi, ça peut puissamment synchroniser l'horloge.
C'est sympa pour le conjoint.
L'halogène dans le lit et hop.
Après, voilà, il y a des avantages et des bénéfices. Vous pouvez aller chercher le croissant le matin, comme ça, quand le conjoint se réveille,
se fait pardonner.
La table prête, voilà. Mais ça, c'est un autre problème. Et c'est un problème complexe et difficile et tout le monde n'a pas votre capacité à pouvoir se lever aussitôt.
Bon, autre astuce, professeur, que vous donnez pour aider son horloge biologique à se remettre à la bonne heure, la douche au bon moment de la journée et à la bonne température, c'est important.
Oui, alors en fait, le refroidissement du corps favorise l'endormissement. Donc pour refroidir son corps, il faut prendre une douche assez longue, parce que si on prend une douche brève, en fait, paradoxalement, on peut l'échauffer et avoir l'effet inverse. Donc il faut plutôt prendre une douche tiède, voire un peu froide pendant assez longtemps, ou un bain tiède, d'accord ? Le matin, par contre, si vous prenez une douche chaude assez longue, vous allez réchauffer votre corps. Ça va vous aider à redémarrer un petit peu comme si vous aviez une activité physique. Vous pouvez combiner les deux. D'ailleurs, rater les deux premières stations du métro, y aller en courant pour prendre la troisième, c'est une bonne façon.
Et avoir besoin d'une autre douche, du coup. C'est bien, deux douches par jour. En plus, on dort bien et on est propre. Merci, professeur. On reste encore un petit peu ensemble. On n'en a pas terminé avec vous et surtout vos conseils pour nous recaler tous, adultes ou enfants, à l'heure de la rentrée. Alors, je sais que pour les petits, c'est demain la rentrée, mais on a pensé à tout. Hein. Ne vous inquiétez pas, nos astuces anti-fatigue sont valables toute l'année, donc pas de stress et restez bien sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Oh, mais c'est mignon ça!
C'est une petite musique peut-être pour s'endormir ou se réveiller, au choix.
Bonne nuit les petits, vous écoutez Europe 1.
C'est ça, mais oui. J'avais pas reconnu Mélanie, oui vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, on a une mission de la plus haute importance ce matin avec Mélanie Gomez. Vous aider à recaler votre horloge biologique et surtout votre sommeil
oui.
à l'heure de la rentrée.
C'est vrai Julia, ça peut être rude parfois de rentrer de vacances et hop le réveil sonne de nouveau à 6h. C'est de nouveau la course pour être à l'heure à l'école, au boulot. Alors pour se recaler tous ensemble, on a fait appel au meilleur. Notre invité c'est le professeur Pierre Philippe. Je rappelle que vous êtes chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Et donc vos conseils pour se recaler, retrouver un sommeil de qualité. Là on est en période de rentrée, on se dit c'est un sujet de rentrée, mais ils sont valables toute l'année. D'ailleurs dans votre bouquin anti-fatigue qui est paru chez Albin Michel, c'est un programme de 4 semaines que vous proposez, qu'on peut faire à n'importe quel moment de l'année. 4 semaines, ça suffit vraiment pour remettre tout au clair niveau sommeil, niveau fatigue ?
Alors, ce que nos recherches ont montré, c'est que d'abord, il y avait un besoin d'évaluation très importante auprès de la population générale. Et par exemple, énormément de gens ne savent pas identifier leurs besoins réels de sommeil. Mmh. Donc, l'intérêt du programme de 4 semaines, c'est d'abord au début de compléter un agenda. Alors, dans le livre, on a un agenda papier, on a même un QR code pour avoir un lien avec un agenda numérique. Et ça, ça aide énormément les gens pour déjà avoir une idée moyenne de leur sommeil. Beaucoup de gens disent en fait je dors très très mal ou très très peu. Et en fait quand on le rapporte sur 7 nuits, ils se rendent compte que c'est pas si mal que ça. Et par exemple, on a publié sur plusieurs milliers d'utilisateurs avec notre application Canopée des résultats qui montrent que le simple fait de s'évaluer sur une semaine, ça réduit les plaintes de sommeil et ça améliore la perception de la qualité du sommeil.
Donc, je vous rappelle, c'est Canopée avec un K et c'est gratuit, téléchargeable sur toutes les bonnes plateformes.
Donc déjà, l'intérêt premier du programme, c'est de dire où j'en suis. Mm-hmm. Est-ce que, par exemple, j'ai une bonne régularité horaire de lever de coucher ? Quelle est ma durée ?
C'est faire un bilan, un état
exactement.
Des lieux.
Exactement, et
fait.
Comment je me sens ? Et à partir de là, après, il y a des conseils personnalisés dont on pourra parler qui permettent d'ajuster en fonction des choses qui ne vont pas.
Alors
rythme
justement,
durée.
En termes de conseils personnalisés, il se dit que c'est bien de faire l'amour, alors pour bien dormir.
Il se dit,
il y a des gens que je connais qui disent que c'est bien de faire l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, d'abord, dans l'absolu, je suis assez d'accord avec vous, c'est bien de faire l'amour.
Voilà, tout court, on pourrait s'arrêter là.
Et pas que pour le sommeil.
Et c'est un professeur qui vous le dit.
C'est bon pour le cœur, ça on l'a déjà dit, mais est-ce que c'est bon pour le sommeil ?
Alors, plus spécifiquement, il y a plusieurs équipes qui se sont intéressées à ça, et donc... Effectivement, ça facilite l'endormissement chez l'homme, ça le retarde un petit peu chez la femme et ça améliore la qualité du sommeil. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est une technique très prescrite avec l'alcool pour favoriser l'endormissement. Quand on fait des enquêtes et qu'on dit aux gens, voilà, et d'ailleurs autant auto que hétéro, la pratique.
Mais l'alcool, on ne recommande pas du tout, on est d'accord.
Alors, l'alcool, c'est une mauvaise idée. Par contre, auto ou hétéro-sexe, c'est
super.
Bien.
Auto, ça veut dire.
Auto, c'est quand on est tout seul dans son lit et qu'on s'embête.
Ça y est,
vous voyez l'idée.
Voilà. Ou avec un autre.
Donc, ça, c'est très efficace, effectivement. Et puis, bon, au-delà de ça, ça libère des endorphines et puis ça permet surtout de créer un sas entre la période d'éveil et la période de sommeil. Et si on est avec un être cher, c'est en plus un élément. Psychologique très renforçant.
Alors, professeur Philippe, on a une question de Maryse sur le hashtag Europe 1 qui demande quels valent finalement ces sprays de mélatonine ou ces gommes de mélatonine qu'on voit partout pour aider, soi-disant, à mieux s'endormir. Elle dit que son pharmacien lui a conseillé et elle demande est-ce que c'est vraiment un produit miracle ?
Alors, d'abord, la mélatonine, ça agit sur le recalage de l'horloge et ce n'est pas un hypnotique en propre. Mm-hmm. Donc, c'est adapté chez des gens qui, transitoirement, vont
voilà,
avoir
en retour
des problèmes
de vacances,
d'ajustement de rythme,
c'est pas mal.
Voilà.
Ouais.
Après, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont disponibles sur le marché à base de plantes ou à base de mélatonine.
Moi, j'ai vu coquelicot et mélatonine ensemble, je sais pas.
Voilà, il y a aussi la valériane qui marche plutôt bien, enfin, sur lequel il y a eu des essais cliniques qui montraient que c'était efficace. Bon, c'est quand même des stratégies alternatives et si l'hygiène de sommeil est déjà mise en place, c'est vain.
Donc, il n'y en a pas besoin si on fait déjà bien les choses.
Voilà, c'est un petit peu quand, pour reprendre l'exemple du diabète, si vous n'expliquez pas aux gens qu'il ne faut pas manger de pizza et d'hamburger, vous pourrez leur donner autant d'insuline que vous voulez, ça ne va pas bien fonctionner. Le sommeil, c'est pareil, 7x7, 49, et après on voit.
Et justement, en parlant de pizza et hamburger, est-ce que ce qu'on mange justement avant d'aller dormir, c'est important pour trouver le sommeil ?
Alors, les viandes rouges, c'est très, très éveillant. Mmh. Donc ça, c'est décrit et c'est déconseillé. Le régime méditerranéen, c'est-à-dire le régime à base d'huile d'olive, plutôt avec des antioxydants, avec du poisson,
Des légumes, des oléagineux. Voilà, voilà. Ouais.
Ça, c'est un effet antioxydant et ça améliore la qualité du sommeil. C'est des données assez récentes d'ailleurs qu'on a sur des cohortes italiennes qui ont mesuré en fait la qualité du sommeil par rapport au régime alimentaire. Et ce qu'on montre, c'est que ce type d'alimentation en fait réduit l'inflammation de bas grade, l'inflammation qu'on a dans le cerveau. Et en fait, réduit la fatigue et améliore la qualité du sommeil.
Mais il n'y a pas un aliment qui fait roupiller ? Un truc, vous le mangez, vous piquez du nez, ça existe
la
pas.
La courgette soporifique peut-être avec de l'huile d'olive.
Alors, l'hypnotique le plus puissant, c'est l'alcool.
Ah oui, mais celui-là, on ne le conseille évidemment
mais,
pas.
Le problème, c'est qu'après, il fragmente en deuxième partie de nuit le sommeil.
Bah oui.
Donc, ce n'est pas une bonne idée. Et après, non, ce qui peut ne pas altérer le sommeil, c'est un repas assez léger, avec plutôt des sucres lents. Et puis, à long terme, c'est plutôt une alimentation méditerranéenne pour réduire cette inflammation de bas grade, qui joue aussi sur le stress et qui fait qu'en fait, quand on va aller se coucher, on va être vraiment serein.
On se couche léger et on évite de fumer, hein, c'est bien ça. Le tabac, c'est pas génial.
Alors, c'est une question intéressante parce qu'il y a des études qui ont montré qu'une cigarette avant le coucher, chez certaines personnes très addictes, ça favorise l'endormissement.
Ah.
Ce qui est sûr, c'est que par contre, il ne faut pas en surconsommer.
Oui.
C'est-à-dire une soirée avec 10 ou 15 cigarettes, ça, c'est un facteur réveillant massif. Mais des fois, pour prévenir la dette, l'effet de sevrage intranocturne, il y a des gens qui prennent une cigarette au coucher, comme ça qu'ils peuvent prolonger leur durée de sommeil.
Professeur Philippe, on a une question au 39-21 d'une jeune maman qui a une question pour vous. On l'écoute tout de suite.
Bonjour, je suis maman de deux enfants de 18, de deux jeunes de 18 et 20, de 20 ans. Ils commencent à la fac à 8 heures. Pourquoi ne pas leur faire des horaires qui sont plus adaptés à leur rythme de vie ? Merci.
18 ans, effectivement, donc on est encore dans l'adolescence, on va dire. 8 heures, c'est vrai que c'est tôt. Hein. Ils ne sont pas en retard de fuseau horaire d'office, les jeunes de cet âge-là, les adolescents notamment.
Bah oui. Oui, mais c'est une question qui est très pertinente. Hein. Et en fait, c'est une question d'ajustement par rapport à la société. C'est-à-dire que la société, elle s'est plutôt calée sur un schéma levé tôt pour productivité. C'était à l'époque en particulier lié à la lumière ou à des conditions climatiques, hein, parce qu'on n'avait pas de climatisation. Donc, quand les gens travaillaient physiquement, il fallait plutôt attaquer le matin.
Mais bon, on ne peut pas changer les horaires de fac. Donc, on conseille quoi, cette maman, pour ces jeunes de 18 ans qui ont du mal ?
Deux messages. Un premier message, c'est que la crise du Covid nous a quand même appris que les moyens numériques pouvaient venir en soutien. Et donc, il y a pas mal de cours maintenant qui sont faits pas en présentiel. Donc, ça peut aider massivement quand même les gens, parce que ça leur évite le temps de trajet en plus. Et après, effectivement, ben, quand on est jeune, mais après aussi quand on va travailler, ben, malheureusement, on est assez contraint à un schéma précoce de lever. Donc, on ne peut pas complètement adapter la société aux besoins des gens, malheureusement.
Alors, vous savez qu'il y a des mamies qui s'inquiètent pour leurs petits-enfants ce matin, puisqu'à présent, c'est Marie-Jo, dans le Nord, qui s'inquiète pour sa petite-fille de 4 ans et demi, qui rentre en moyenne section, et là, il n'y aura plus de sieste. Or, sa petite-fille en a eu besoin tout l'été. Alors, la question, c'est jusqu'à quel âge la sieste est-elle vraiment indispensable ? Est-ce qu'il y a une règle ?
Alors, le sommeil polyphasique, c'est-à-dire le sommeil nocturne et diurne, généralement, ça disparaît assez tôt. 18 mois, 24 mois, en termes de besoin absolu. D'accord ?
Bon.
Après, tout le problème qui se pose, c'est le problème de la durée. C'est-à-dire que les enfants, ils peuvent avoir besoin de 9 à 11 heures. Et donc, très souvent, la période nocturne, elle ne va pas au-delà de 9 heures parce que la maison se réveille, les enfants ont envie de faire des choses. Et donc, et l'intérêt de la sieste, c'est ça, c'est de compenser le besoin. Bon. Donc, ce qu'il faut faire, et en particulier chez les enfants qui sont assez adaptatifs, c'est qu'il ne faut pas hésiter vraiment à allonger leur temps de sommeil nocturne pendant l'année et leur dire, bon, ben, à 7h30, 8h,
tu vas au lit.
Un bon livre, tu vas au lit, on te laisse une demi-heure pour t'endormir tranquillement, on vient de te faire une bise, on éteint la lumière. Et après, on rentre dans un schéma où on peut supprimer ce besoin de sieste en le compensant par une bonne durée de sommeil nocturne.
Bon, on a beaucoup de questions sur les enfants. On a Carmen qui est elle aussi une grand-mère. Donc, il y a encore une grand-mère. On a des grand-mères qui nous écoutent et on les salue, bien sûr. Elle a 66 ans et elle demande via la page Facebook d'Europe 1 comment savoir combien d'heures un enfant doit dormir en fonction de son âge. Elle précise qu'elle a deux petits-enfants de 3 et 10 ans. J'imagine qu'ils n'ont pas forcément les mêmes besoins à 3 et 10 ans.
Alors, d'abord, le besoin de sommeil, c'est déterminé génétiquement. Donc, on n'est pas tous égaux. Mais on peut imaginer, par exemple, donner des besoins minimums. Donc, par exemple, chez les très petits enfants, 3 ans, la règle, c'est 10 heures. Donc, il faut partir sur 10 heures. Ça peut aller jusqu'à 11 heures. Mais la règle, c'est ça. Il faut dire 10 heures par jour.
Bon.
Après, quand on avance dans le temps, ça peut se réduire un peu. Mais schématiquement, si on parle d'enfants, c'est 9-11 heures. Quoi.
On est toujours dans cette fourchette-là.
Voilà, il faut viser entre ça. Et si on parle adulte, c'est 7-9 heures. en sachant que 9h, c'est un peu extrême, mais ouais. En tout cas, jamais en dessous de 7.
Entre 7 et 8, on va dire, c'est
voilà,
bien.
Voilà. Ouais.
Et vous dites
voilà.
Jamais en dessous de 7, hein, c'est intéressant. Alors justement, vous parlez du potentiel manque de sommeil. Est-ce que si on a manqué de sommeil dans son enfance, est-ce que si on a trop de dettes de sommeil, ça peut créer vraiment des retards de développement, des vrais problèmes?
Alors, on n'a pas de données spécifiques, à ma connaissance, propres par rapport au retard de développement. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a des données assez précises sur l'hygiène du sommeil et, par exemple, l'échec scolaire. Mmh. On a montré que, par exemple, les enfants qui sont en dette de sommeil, ils ont un taux d'échec scolaire plus important. Ils ont aussi un taux d'accident plus élevé.
Ah oui, donc on rigole pas avec ça, hein,
voilà,
professeur.
Donc c'est quand même un élément important dans la santé et puis aussi dans le vécu des enfants, parce qu'en fait, ils ont du mal à mémoriser parce que leur cerveau fonctionne
bah oui,
mal.
Bah oui, ils sont plus aptes. Alors bah merci d'avoir rappelé ces règles vraiment très importantes, d'autant plus que la rentrée scolaire,
c'est,
eh bien,
demain.
C'est demain. Mélanie, je vous remercie beaucoup, professeur Philippe, d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir été notre guide pour recaler notre horloge biologique à tous en cette rentrée. On a compris, hein, pas de panique pour demain, mais plutôt des bons conseils pour toute l'année. Dans un instant, Mélanie, on va passer à notre séquence tendance.
Et oui, Julia, nos deux chroniqueuses du jour, Philippine Darblay et Sophie Braffman, s'installent avec nous. Elles sont fin prêtes à nous parler l'une de ces dernières trouvailles tendances en matière de gel hydroalcoolique. Donc des gels qui nous protègent et qui ne sont pas désagréables en même temps, c'est pas mal. Et puis il sera question aussi de mode, de fringues et d'économie circulaire. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, c'est votre nouveau magazine Feel Good, Conso, Mieux Vivre. Et Julia, on va débuter à présent la séquence tendance de cette émission.
Oui Mélanie, et pour ce faire, nos deux chroniqueuses sont déjà là avec nous. Notre petite nouvelle d'abord, Sophie Braffman, bonjour pour cette première avec nous. De quoi allez-vous
bonjour.
Nous parler ce matin?
Je vais vous parler d'économie circulaire, les filles. Et quand on parle de mode, on en a bien besoin. Parce qu'avec tous les vêtements qu'on a produits, on a de quoi habiller les 5 prochaines générations. Donc, ce serait pas mal de ne plus produire.
Une chronique utile, hein, je la oui. sens bien celle-ci. Alors, avant de se lancer dans nos placards avec vous, Sophie, on va donner la parole pour démarrer à Philippine Darblay avec une tendance aujourd'hui qui va rentrer complètement en plus dans le contexte sanitaire, je crois.
Oh oui. Bon, alors, je vais démarrer, mesdames, par un petit quiz. Mmh. Le hit 2021, l'accessoire indispensable qui se cache dans votre voiture, chez vous, au bureau, dans les cartables, c'est...
Le gel. J'en ai 3, je crois.
Attends,
dans mon sac à main. Juste.
Hydroalcoolique.
Hydroalcoolique.
Pas n'importe quel gel.
Bon, c'est vrai que j'étais là pour vous faire rêver de tendance. On est d'accord, il y a eu plus sexy, mais bon, celle-ci, on est d'accord aussi, elle est indispensable. Et puis dans la série des gels en tout genre, bah, on a tous connu, vous savez, l'énorme pompe à l'entrée des magasins qui... On est comme ça pendant 10 minutes.
Mais non, mais c'est
trop
liquide.
Tellement c'est liquide et on ne peut plus rien faire. Et puis il y a celle qui nous rappelle un peu les shots de vodka quand on avait 20 ans là. Ça débouche les trous de nez. Et puis il y a le gluant, vous savez, celui où on s'enduit, cette drôle de texture un peu visqueuse, qui devient même un peu gênante parce que c'est vrai qu'elle nous rappelle un autre produit, non?
Les coquines.
Excusez-moi, je m'égare. On revient. Bon, on l'aura compris, le gel est entré dans nos vies. Only you. Mais bon, on sait que trop de gel irrite, ça dessèche aussi, et puis ça abîme ce qu'on appelle le microbiome cutané, qui est en fait tout l'écosystème de la peau. Et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de marques se sont mises à faire des versions plus hydratantes, avec des super senteurs, bref, tout le monde s'y est mis. Mais en fait, en regardant plus près, moi je me suis aperçue que ce que j'avais dans mon sac, c'était plutôt ce qu'on appelle des gels nettoyants, et non pas des gels hydroalcooliques.
Mais c'est quoi la différence entre les deux?
Eh ben, en fait, pour être hydroalcoolique, ça doit contenir, le gel en question doit contenir au moins 60% d'alcool, et ça doit être clairement... marqué sur l'étiquette, mentionner les dangers, etc. Les gels nettoyants, évidemment, nettoient, mais ne désinfectent pas.
Oui. Ah,
voilà.
Donc, il faut bien
attention quand même. Hein.
Nuance. Mmh. Nuance, voilà. Et du coup, il y a beaucoup moins de choix sur ce segment-là qui respecte les normes imposées par l'OMS. Donc, je vous ai trouvé 3 produits que j'aime bien pour des propriétés différentes. Le premier, c'est un gel hydratant de la marque Aromazone, qui est donc connu pour ses huiles essentielles, qui est fait à base d'alcool végétal, d'huile essentielle justement, et d'acide hyaluronique, qui a un effet hydratant.
Mais il faut compter combien pour ce gel? Parce que là, je me dis, avec tout ça dedans, ça doit coûter peut-être plus cher, non? Je ne sais pas.
Eh ben non, pas forcément. 1,95€ les 100 ml, donc c'est une petite bouteille qui rentre dans les poches, dans les
sacs à main.
Les sacs à main, absolument dans nos vies. Ensuite, il y a un deuxième gel dont j'aimerais vous parler, qui est un gel plutôt hypoallergénique de la marque La Roche-Posay, donc une marque de parapharmacie. Cette fois-ci, celui-ci contient de la glycine, qui est également hydratant. C'est d'ailleurs en fait un composé qu'on retrouve souvent dans les cosmétiques.
De la glycine ou de la glycérine?
Glycérine, excusez-moi.
Elle a la précision, Julien.
Non, mais bravo, c'est autre chose. Bravo. C'est vrai que là, on change. tout de suite de produits. Bien vu, glycérine, donc qu'on retrouve dans les cosmétiques. Il est évidemment conforme aux recommandations et il a été distribué pour info dans plus de 300 établissements hospitaliers pendant la pandémie. Donc c'est une valeur sûre. Et pour vous donner un ordre de prix, on est à 2,25€ les 75 ml.
Ça va toujours.
Voilà, on le trouve en ligne et en pharmacie. Et puis enfin, il y a un gel parfumé, celui de la marque Sanctuary Spa, qui est une marque londonienne qu'on connaît un peu moins en France, qui a 70% d'alcool et des notes plutôt florales, de rose, de jasmin, de santal. Et surtout, c'est en spray, ce qui évite de mettre trop de produits et ça disperse mieux le produit en soi. Et là, on compte un budget un peu plus élevé. Il est autour de 4,45€ les 100 ml. Et c'est essentiellement parce que c'est une marque qu'on retrouve moins sur le marché français.
C'est la Rolls du gel hydroalcoolique. Est-ce que ça remplace le lavage des mains au savon ou pas ?
Eh bien non, il ne faut surtout pas oublier que le gel hydroalcoolique est une solution B. Ça ne remplacera jamais les mains sous l'eau chaude avec du savon. Et puis, à savoir, il faut toujours privilégier tout ce qui a bouchon plutôt que pompe, qui sont moins hermétiques. Comme tous les produits, c'est un produit qui périme et qui doit bien se conserver à l'abri de la chaleur, du soleil, etc. Bon, je vous propose de finir sur une note un peu littéraire. Comme nous dit Montesquieu, la propreté est l'image de la netteté de l'âme.
Oh, c'est beau. Wow.
C'est un bon début, non ?
Franchement, merci beaucoup Philippine. Vous avez rendu le gel hydroalcoolique hyper sexy, moi je trouve. Merci. En plus, on est dans les conseils sanitaires, mais dans la bonne humeur. Moi, j'adore. Allez, c'est au tour de Sophie Braffman de nous faire part de ses meilleurs conseils, de ses meilleurs bons plans.
Et oui, avec vous Sophie, merci d'être avec nous dans ce tour de table tendance. Alors avec vous, on sera toujours du côté de la mode, hein. Et donc en cette rentrée, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet mode ?
Alors déjà, je suis très contente les filles qu'on soit enfin en septembre, parce qu'on va laisser de côté un tas de choses. On va laisser de côté les sandales allemandes, les maillots échancrés qui remontent jusqu'au nombril, si on en a beaucoup vu cet été, et surtout la fameuse mode du short cycliste, lancée par Kim Kardashian et qu'on porte aussi sur le bitume. Hein,
le cycliste en ville, sérieusement ?
Ah oui, alors sérieusement, le short, vous aimez bien. Alors, le short cycliste, comme à l'époque de Véronique et Davina, comment vous le porter, Julia ?
Alors moi, je ne porte pas ce genre de choses, mais effectivement, quand on est gaulé comme vous...
Comme Philippine,
on peut, ou alors, oui, jusqu'à l'âge de 3 ans, on peut porter des cyclistes.
Voilà, jusqu'à l'âge de 3 ans, mais effectivement, passer un certain âge, c'est plus compliqué, surtout qu'il se porte, savez-vous bien, avec un top crop. Vous savez, le top crop, c'est ce petit top qui vous fait un peu avoir froid dans les rayons du supermarché, parce que
qui
votre ventre est à l'air.
Le nombril.
Ou alors, avec un blazer. Alors moi, je dis blazer et cycliste, hein, c'est plutôt aux antipodes sur la cartographie du bon goût. On ajoute à ça des talons à bout carré. Et là, on file la métaphore du moche jusqu'au bout. Parce qu'il faut le savoir, on en reparlera. Le moche, c'est le nouveau beau. Et ça, c'est une tendance de rentrée. Donc bon, le cycliste, non. À moins d'être moniteur de rando, clairement, on ne va pas le porter en cette saison.
Non, et puis c'est pas indispensable. Le cycliste, d'autant plus qu'il faut faire attention à notre consommation de fringues.
Exactement.
Donc voilà, c'est pas indispensable. On oublie ça parce que ça pollue, hein, trop de vêtements.
On a relayé le cycliste au garage et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Et pour tous ceux qui nous écoutent, le thème de la rentrée, c'est l'économie circulaire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, en d'autres termes, tout se récupère. Alors vous allez commencer, mesdames, par un principe assez simple, vous allez faire du shopping dans votre penderie. En gros, il va falloir jouer à Marie Kondo, vous savez cette star japonaise sur Netflix.
Je suis sûre que Julia fait
vous
ça.
Non,
c'est ma prêtresse, c'est ma reine, c'est mon dieu, c'est mon amour.
Oh là là. Et vous faites comme elle, est-ce que vous remerciez, vous savez que
je remercie mes vêtements.
Arigato.
Quand je dis au revoir à mon petit pull bleu que j'ai en 3 exemplaires, eh bien je lui dis merci de m'avoir accompagnée, notamment au mariage de mon amie Sophie. Par contre, il ne me répond pas.
C'est embêtant, c'est fâcheux, les vêtements ne parlent pas encore. Mais alors, vous êtes vraiment formidable, Julia, parce qu'en général, la française est plutôt désagréable, ou voire une icône mode, et donc elle ne réagit pas comme ça, elle balance ses fringues. Alors non, on ne les balance pas, bien évidemment. On les donne, on pense à tous les vêtements qu'on n'a pas mis depuis un an, en général, c'est qu'on ne les remettra pas. On peut les vendre, Vinted, Le Bon Coin, Vestiaire Collectif, pour la partie la plus luxe. Sachez qu'en fait, c'est une façon aussi de se faire un peu d'argent. Ensuite, grosse tendance de cette rentrée, on va essayer de retrouver des pépites. Alors, les années 90, les filles, c'est un peu notre jeunesse,
ouais,
ça, on adore
clair.
Cette époque.
Mais j'ai tout jeté, moi.
Ah, non, il vous reste pas un petit bandana au fond d'une armoire, hein.
Si, peut-être, j'en fais quoi?
Alors, le bandana, c'est l'accessoire de cette rentrée. Alors, Mélanie, vous pouvez le porter sur la tête, en mode Brigitte Bardot à la ferme.
J'adore.
Voyez, en fichu, comme ça.
Pour la prochaine émission. Voilà.
Pour Philippine, autour du cou, façon Village People, je sens que ça va vous séduire.
C'est sûr.
Et pour vous, Julia, en ceinture, sur un jean mum. Alors, il faut avoir la taille bien fine. Hein,
oui, je vous remercie, moi j'ai déjà essayé, ça passe pas.
Ça fait une demi-ceinture. Alors, on accroche deux bandanas et ce n'est pas grave parce qu'on va porter des jeans mum aussi. Ça, c'est très important de le préciser.
Mum comme
Mum comme maman, exactement. Vous vous rappelez de ces jeans des années 80-90 hein? Alors, c'est vraiment des jeans qui ont la taille haute, voilà, qui enveloppent complètement. Alors, ça allonge la jambe, ça aplatit le ventre et ça couvre la fesse, contrairement aux tailles basses des années 2000 qui laissaient apparaître
le sourire du pompier.
Je n'osais pas le dire. Vous dites du pompier, je dis du maçon, mais c'est le même principe.
Sophie, on va essayer de ceinturer notre jean et au-delà de la récup de nos stocks perso, y a-t-il des marques qui proposent de vieux vêtements remis au goût du jour?
Alors, parfaitement. Donc la première, quand on parle de jean, une toute nouvelle marque française qui s'appelle Annie Jean Paris, parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand on achète un jean, c'est 280 litres d'eau, hein, soit l'équivalent de 116 douches pour le produire. Donc là, le principe de cette marque, c'est très simple. On récupère des vieux jeans, notamment des Levi's par exemple, hein, vraiment des enseignes mythiques, et on les remet au goût du jour. Alors vous allez avoir des jeans colorés, vous allez avoir des jeans roses, des jeans verts, teinture végétale bien sûr, délavés, recousus avec des patchwork, et surtout, chaque produit est unique, puisque chaque fripe est unique. Ensuite, on a d'autres marques. Alors tout ça est disponible sur le web, bien évidemment, hein, pour simplifier, pour que ça soit accessible dans tout l'Hexagone. Une marque qui porte très bien son nom et qui s'appelle Les Récupérables.
Alors ici, j'adore cette marque.
Elle est... Ah, vous la connaissez.
Ça ne m'étonne pas que Philippine, vous connaissiez tout ça.
Alors, cette marque, elle ne propose que 4 collections par an. C'est l'inverse de la fast fashion. Voilà, on en propose tous les 15 jours. Donc, c'est formidable parce que là, il y a une collection qui va sortir dès le 6 septembre. Donc, je vous recommande fortement la banane, qui est un accessoire fétiche.
J'adore ça.
Vous allez adorer la banane.
Vous pouvez la porter comme ça aussi. Enfin, on est en radio, donc je
vous avez une banane qui est en bandoulière.
Non, mais c'est mon prochain achat, la banane.
J'adore. Allez voir cette banane vintage. Et enfin, dernière enseigne, c'est hyper beau. Maison Cléo, où là, c'est dans le Nord, c'est la mère et la fille qui fabriquent en plus les vêtements. Et ce qui est formidable, c'est que ce ne sont que des vêtements issus de stocks de couture. Donc vous allez avoir des vêtements absolument somptueux. Voilà, du beau, du moins et surtout du mieux.
Vous m'avez mis la banane. Merci beaucoup Sophie. Merci à vous également. Merci. Philippine. On vous retrouve toutes les deux très bientôt pour d'autres tendances. En attendant, Julia, place à la santé et au bien-être dans Bienfait pour vous.
Et oui Mélanie, dans notre grand dossier santé aujourd'hui, on va parler un peu de prévention du diabète plus précisément. Et oui, il y a certaines formes de cette maladie qu'on peut prévenir à condition de suivre quelques règles. On vous expliquera évidemment quoi faire pour y parvenir et ce sera avec notre invité, le diabétologue Fabrice Bonnet. A tout de suite sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.
Europe 1,
11h30.
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30. D'ici là, installez-vous juste confortablement avec Julia Vignali. On s'occupe de tout et surtout de votre santé.
Et oui, Mélanie, la santé, le bien-être dans cette émission, c'est tous les jours, dès midi, une demi-heure consacrée à ces thématiques avec un invité quotidien. Et aujourd'hui, c'est le diabétologue Fabrice Bonnet qui sera avec nous. Il va nous expliquer comment éviter certaines formes de diabète. Mais pour cela, il y a quelques règles simples à suivre au quotidien dans notre hygiène de vie. Il nous détaillera tout cela.
Et à 12h20, comme tous les jours, il y aura notre chronique vite fait, très bien fait, la cerise sur le gâteau de cette émission. Et comme tous les mercredis, ce sera avec vous, docteur Sylvie Chocran. Vous êtes neuropsychologue. Et justement, vous allez nous proposer de décrypter du point de vue de la science une expression bien connue.
Exactement. Alors, on va se demander si réellement qui se ressemble s'assemble et ce que nous disent les neurosciences de cette expression.
Ah, super. Merci Sylvie. Nous, on nous a assemblé avec Mélanie pour cette rentrée radio. On verra si c'est parce qu'on se ressemble un peu, qui sait. Mais en tout cas, pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1.
C'est le morceau de sucre qui aide la médecine.
Voilà. On est parti pour une demi-heure consacrée, non pas à Mary Poppins, mais à votre santé, votre bien-être. On va parler prévention, surtout aujourd'hui avec vous, professeur Fabrice Bonnet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, professeur Bonnet, vous êtes diabétologue au CHU de Rennes et vous avez écrit le livre « Mieux vivre avec un diabète » aux éditions Marabout que Mélanie Gomez est en train de montrer à la caméra qui nous filme sur
europe1.fr.
Alors ce matin, grâce à vous, docteur, on va tenter d'éviter le diabète. Enfin, je dis le, mais en fait, je devrais dire les diabètes. Parce que remettez-nous les idées en place, c'est quoi le diabète? Il y a plusieurs types, est-ce que tous sont évitables?
Alors le diabète, c'est l'excès de sucre dans le sang, la glycémie qui s'élève. Il y a deux
principaux types. Le plus fréquent, c'est le diabète qu'on appelle de type 2, qui, c'est vraiment la grande majorité, qui apparaît plutôt après 40 ans, et il peut être prévenu. Mmh. Et le diabète de type 1, qui touche plus des sujets jeunes, des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes, qui est là une maladie auto-immune, et pour lesquelles la prévention est plus compliquée, des recherches en cours, mais c'est un peu plus compliqué, et qui nécessite des injections d'insuline.
Donc c'est plutôt du diabète de type 2 dont on va parler aujourd'hui, oui, en termes de prévention, on va détailler ça après, mais tout de même, si ma mère est âgée, elle est diabétique, mon père, il a un diabète de type 2, on va dire, et qu'il y en a même peut-être d'autres dans ma famille, est-ce que là, ben, puisque c'est plutôt, j'ai l'impression, génétique, est-ce que là, on va pouvoir agir aussi sur ça, sur prévenir ces formes-là ?
Oui, oui, tout à fait, parce que quand justement les membres de la famille sont un peu plus prédisposés, ils peuvent, en modifiant leur style de vie, leur alimentation, leur activité physique, prévenir, reculer, éviter l'apparition d'un diabète qui apparaît aussi avec le vieillissement, mais on peut faire des choses.
Donc on n'est pas condamné par ses gènes, quoi.
Non.
Alors comment on se rend compte qu'on est diabétique d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous mettre sur la piste ?
En fait, pas tellement, parce que c'est silencieux, l'hyperglycémie, ça fait pas mal, il n'y a pas de douleur. Et c'est un stade vraiment tardif où il y a une envie d'uriner et de boire plus importante qu'on voit surtout chez les enfants, mais qu'on peut voir chez les adultes. Mais c'est un stade tardif. Donc en fait, à part faire une glycémie, un contrôle du taux de sucre dans le sang, une analyse de sang ou une analyse d'urine, eh bien ça peut passer inaperçu.
Donc au début, ça ne se sent pas comme l'hypertension d'une certaine façon. Exactement. D'ailleurs, le diabète, professeur, en général, est-ce que c'est quelque chose qui s'installe brutalement du jour au lendemain ou bah, vous avez dit c'est silencieux, ça peut durer, je ne sais pas, 2-3 ans sans qu'on s'en rende compte de rien ?
Oui, on peut détecter une augmentation modérée de la glycémie lors d'un bilan de santé, d'un
au
check-up.
Hasard, comme ça, ouais.
Et on peut dire à ce moment-là, parfois il y a l'expression pré-diabète, c'est-à-dire c'est le clignotant orange, votre glycémie elle est limite haute. Mm-hmm. Donc faites attention parce que ça pourrait virer au diabète. Et la plupart du temps c'est comme ça, une augmentation progressive. Parfois il y a une augmentation brutale et on va s'apercevoir que le patient a un diabète élevé, mm-hmm, mais il y a encore des choses qu'on peut faire quand même à ce stade-là.
Et quand ça apparaît brutalement, j'ai souvent entendu dire que ça pouvait être à cause d'un choc psychologique, vous le confirmez ça ?
C'est vrai, alors à la fois pour le type 1 et pour le type 2, et c'est quelque chose qui est un petit peu sous-estimé, mais il y a beaucoup d'études qui ont montré un lien entre un stress psychologique dans l'enfance, un stress ressenti au travail, c'est ce qu'on a montré nous dans une étude sur près de 70 000 femmes de l'éducation nationale qu'on a suivies d'un point de vue épidémiologique en France, et les femmes qui ressentaient un stress perçu au travail important, c'est-à-dire des tensions, elles n'arrivent pas à être à la hauteur de ce qu'on leur demande, ça, c'est une source de stress intense, et bien quelques années après, elles avaient un risque plus important de développer un diabète.
Bon, donc rien qu'en nous écoutant, en écoutant Bien fait pour vous, on se détend et on évite déjà d'une certaine façon le diabète. Professeur Bonnet, lorsqu'on est diabétique, est-ce qu'on l'est toute sa vie ou est-ce que ça peut disparaître ? Peut-être, c'est quand même en fonction du type de diabète. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait le type 1, le type 2. Le type 1, on ne peut pas guérir.
Définitif. Ouais. Le type 2, il y a des rémissions, notamment après une perte de poids importante et notamment après la chirurgie de l'obésité pour des patients qui ont perdu 20-30 kilos, le diabète peut disparaître. Il peut revenir peut-être quelques années plus tard avec le vieillissement, mais c'est donc pas figé, c'est pas inéluctable. Et les études de prévention ont montré aussi qu'un état de pré-diabète peut régresser également.
Alors vous parliez tout à l'heure de pré-diabète, vous parliez également de glycémie et de contrôle de prise de sang. Est-ce qu'il faut le faire régulièrement pour savoir si on est en pré-diabète ou pas ?
Alors oui, on conseille, disons, une fois tous les 3 ans, chez un sujet adulte bien portant, voilà, c'est pas très fréquent. Si, en revanche, il y a des antécédents familiaux, s'il y a une obésité, un surpoids, une sédentarité, ça peut être tous les ans, ou un peu, voilà. Mais c'est pas, faut pas non plus stresser
donc,
trop.
Pour un adulte en bonne santé, qui n'a pas de problème particulier, vous dites tous les 3 ans, mais à partir de quel âge ? Enfin, 18 ans, c'est peut-être un peu jeune.
Non, on dit plutôt 40 ans, sauf s'il y avait des cas dans la famille de diabète précoce, ou dans ce cas-là, à partir de 20 ans, on peut faire ce bilan.
Et c'est pas grand-chose, c'est une prise de sang.
Oh oui, juste une prise de sang.
À jeun, c'est ça ?
À jeun, oui.
Ouais. Bah oui. Et alors, est-ce que c'est un stade qui est réversible, du coup, le pré-diabète ?
Oui. Oui, si on perd du poids, si on bouge plus, si on est moins stressé, mais c'est compliqué, mais c'est aussi cet aspect dont il faut tenir compte. Donc si on modifie effectivement les aspects qu'on appelle environnementaux, au sens large, eh bien, il y a une action très nette sur le métabolisme et des bénéfices, sans forcément avoir besoin de médicaments.
Ah oui, juste en modifiant son hygiène de vie, vous avez des patients comme ça que vous avez traités, aidés, ramenés à l'état antérieur,
oui,
je veux dire
Oui, oui. Et il y a des patients qui sont très motivés, qui veulent éviter absolument d'avoir un traitement médicamenteux, parce qu'il y a quand même un côté de motivation, ça va être à eux de faire, sans non plus se priver de manière exagérée, mais c'est modifier son alimentation, son hygiène de vie, la façon de marcher, d'aller au travail, et ça peut être payant.
Oui, ben moi j'étais en pré-diabète, hein, je vous le dis.
C'est pas vrai.
J'ai animé une émission
sur les
gâteaux.
Ça peut arriver à tout le monde, pendant... meilleur.
le meilleur pâtissier. Donc j'ai mangé beaucoup, énormément de gâteaux pendant 4 ans, et mon taux était monté. Et ben maintenant, j'ai arrêté les gâteaux, j'ai fait du sport et ça va bien mieux.
Donc c'est possible, hein, pour les hommes, les femmes, à n'importe quel âge, on peut revenir à l'état antérieur avant le
prédiabète.
Ça dépend
après du contexte. Je ne vais pas donner d'illusions à tous les auditeurs, mais on peut améliorer, en tout cas, la glycémie et l'état métabolique en faisant attention. Mais attention à ne pas se priver de manière drastique. Il y a un peu la mode des régimes très stricts, cétogènes. Il faut faire attention parce qu'il faut garder aussi un élément plaisir et garder un dessert de temps en temps, mais ça ne veut pas dire les supprimer définitivement.
Donc vous n'êtes pas anti-sucre?
Non, surtout pas.
On ne mange pas quand même 15 gâteaux par jour, comme vous, Julia, à une époque. On a l'impression que le diabète, les diabètes en tout cas, c'est une maladie qui augmente de plus en plus dans la population ces dernières années. Pourquoi ces personnes diabétiques sont-elles justement de plus en plus nombreuses? Comment on l'explique, s'il y a un ou des facteurs principaux, on va dire?
Il y a le vieillissement de la population, l'espérance de vie qui s'allonge, parce qu'on est, il y a beaucoup plus de diabétiques après 65 ans, après
le
70
ans. Le fait de vieillir,
ans.
Simplement
Oui, il y a une altération un petit peu du pancréas qui sécrète l'insuline, qui fait que la glycémie peut monter davantage. Il y a aussi un gros facteur, c'est qu'on est plus sédentaire, en tout cas jusqu'à présent. Et alors avec la pratique du vélo, il y a des modifications qui iront dans le bon sens. Mais globalement, les Français, mais dans le monde entier, les Occidentaux ont fait moins d'activité physique, on prend du poids. Et le surpoids et l'obésité favorisent grandement le diabète.
Alors justement, on a besoin de conseils, professeur. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire à avoir qui peut prévenir le diabète?
Alors oui, et c'est un régime qui est équilibré en fait. Ce n'est pas un régime justement drastique où on ne mange que des salsifis ou des poireaux. C'est un régime...
En plus, vous n'avez pas pris les meilleurs de légumes, franchement.
Voilà, ça ne fait pas très envie. Eh bien, c'est le régime méditerranéen. C'est vraiment...
Mais
dis
donc, c'était bon pour le sommeil dans le début de l'émission, mais le régime méditerranéen, c'est bon aussi contre le diabète.
Exactement.
Donc c'est super.
Contre
le
diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires.
On fera une émission sur le régime méditerranéen, plus en détail.
Le régime méditerranéen, c'est des choses agréables. C'est beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, un petit peu de vin rouge, des polyphénols.
Des sardines, des harengs, des choses comme ça.
Des poissons et assez peu de viande, plus de volaille, des céréales complètes ou semi-complètes et de l'huile d'olive.
Bah, génial.
Il est midi 10, c'est parfait, hein, c'est quoi manger.
J'ai faim, merci. Professeur Bonnet, vous restez avec nous. On va poursuivre sur les bons conseils que vous nous prodiguez ce matin pour prévenir l'apparition d'un diabète. Quelle hygiène de vie faut-il privilégier? Faire du sport notamment préviendrait la survenue de cette maladie, mais comment tout ça fonctionne? Et puis, n'hésitez pas, il est encore temps, on attend vos questions sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou encore sur notre répondeur au 39 21. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio avec le professeur Bonnet, diabétologue, qui nous donne ses meilleurs conseils pour éviter au maximum d'avoir besoin de lui un jour. Merci professeur. Alors on l'a dit, on va prendre quelques questions de nos auditeurs. D'abord celle-ci de Raphaël qui nous a appelé depuis le Var. Alors il dit, pour éviter en finir avec le diabète, moi j'ai la solution, j'ai subi une chirurgie bariatrique, une sleeve plus précisément, j'ai perdu 45 kilos, c'est génial, et mon diabète avec. Alors, professeur Bonnet, c'est la chirurgie de l'estomac ou la perte de poids qui a eu cet effet-là?
C'est avant tout la perte de poids, mais donc qui est induite par cette chirurgie classique de bariatrique de l'obésité, et qui marche bien. Effectivement, c'est ce que je citais tout à l'heure, il peut avoir des rémissions durables du diabète, et c'est une bonne chose.
Professeur Bonnet, on a aussi Alexander qui nous dit « Je vous écoute depuis Londres, j'ai un diabète de type 1 depuis 2012, j'ai aussi de l'épilepsie, les deux maladies sont sans doute liées. » Alors vous êtes là, mais il y a aussi Sylvie Chocran qui est neuropsychologue à côté. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre diabète et épilepsie?
Les hypoglycémies peuvent favoriser, ça on le sait, les épilepsies. Sinon, il n'y a pas de lien vraiment direct. Ou après, c'est au cas par cas, certaines anomalies génétiques. Mais c'est assez complexe.
Est-ce qu'on pourrait parler, professeur, des sucres cachés, hein, qui sont particulièrement nos ennemis quand on veut tenter d'éviter un diabète? Comment on les repère, ces sucres qui se cachent?
Alors, si on regarde scrupuleusement la composition des aliments et des produits, mais oui, parce que c'est en fait, soit c'est un correcteur de goût, un correcteur d'acidité, le sucre, donc c'est pour ça qu'il y en a dans le ketchup, il y en a dans les sauces tomates.
Dans les soupes aussi, beaucoup.
Et oui. Et donc, ce n'est pas des quantités énormes, mais ça fait, effectivement, ça peut s'additionner. Il y en a dans les confitures pour qu'elles durent plus longtemps. Donc, mais maintenant, il y a quand même beaucoup d'efforts où il y a moins de sucre ajouté et une quantité réduite en sucre des aliments.
Professeur Bonnet, on a une autre question de Julie qui nous a appelé au 3921 sur notre répondeur. Elle a 34 ans et demande si notre microbiote, notre flore intestinale, très déséquilibrée par nos modes de vie actuels, ne pourrait pas être responsable de certains diabètes. Elle demande s'il y a des recherches en ce sens et s'il faut justement le chouchouter, ce microbiote.
Elle a tout à fait raison. Il y a effectivement beaucoup de recherches et d'arguments, alors plus encore chez l'animal, mais ça arrive chez l'homme, pour se dire que notre flore intestinale, notre microbiote, a un rôle clé dans le métabolisme du glucose et qu'en le modifiant par notre mode de vie et notre alimentation, on peut le réorienter vers un effet anti-diabète. Et c'est notamment, je dirais juste, privilégier, il y a eu des études, l'avoine, donc flocons d'avoine, le poireau.
Alors justement,
le poireau,
et le salsifis aussi.
Oui, alors il y a Fabrice qui nous parle sur Twitter.
Fabrice qui nous a dit les salsifis et les poireaux ne vous font pas envie, les filles. Et bien pourtant, vous en êtes deux autres.
Eh bien, on l'embrasse, Fabrice.
C'est très, très particulier. Alors, professeur, vous disiez...
Oui, on peut modifier le microbiote avec justement poireaux, flocons d'avoine. Il y a aussi, c'est vrai, les salsifis, les oignons. Donc certains aliments, en fait, tout ce qui est fibres, notamment, donc on a dans les fruits et légumes, vont modifier le microbiote dans un sens favorable.
Bon, on a cette question de Sylviane de Besançon sur Twitter. Elle a 42 ans, elle nous a envoyé donc le message suivant, je vous le lis. Elle demande si faire beaucoup de sport peut vraiment prévenir l'apparition d'un diabète. En gros, elle est assez sportive, dit-elle, mais toujours en surpoids, pas diabétique pour le moment. Mais elle voudrait savoir si c'est 3 joggings par semaine la protège de ce risque et si oui, comment tout ça fonctionne?
Oui, ça la protège. Trois fois, au moins 30 minutes, trois fois par semaine, ça a bien été montré qu'il y a un effet protecteur. Donc si elle peut poursuivre, c'est très bien. Et même s'il n'y a pas de perte de poids, l'activité physique en elle-même, indépendamment, on ne fait pas l'activité physique pour perdre du poids, on le fait pour le bénéfice général pour la santé et pour la prévention du diabète, ça marche. Alors, un jour, peut-être, ça ne sera pas suffisant. On ne peut pas garantir.
Donc, il faut qu'elle se surveille régulièrement.
Mais ça a un effet bénéfique. Pourquoi ? Parce que les muscles utilisent davantage de glucose. Au lieu de rester stocké dans le sang, il est utilisé, brûlé dans les muscles.
Quand on bouge, les muscles bouffent le sucre.
Et oui,
quoi, en fait.
C'est leur carburant.
Ça.
D'accord, on peut aussi marcher. Hein, parce
Exactement.
Que 3 joggings par semaine,
c'est beaucoup.
C'est beaucoup. En fait, une bonne activité physique, c'est ce que vous recommandez.
Oui.
Il n'y en a pas des meilleurs que d'autres pour éviter le diabète.
Non. Au départ, on conseille des exercices d'endurance type natation, marche, jogging. Mais maintenant, on sait aussi que un peu de résistance, c'est-à-dire soulever des haltères ou aller en salle de sport, eh bien là aussi, il y a un bénéfice.
Eh bien voilà, une bonne raison encore de prendre de bonnes résolutions à cette rentrée. Merci beaucoup, professeur Bonnet, d'avoir répondu à toutes nos questions. J'en profite pour signaler une dernière fois votre livre « Mieux vivre avec un diabète » paru chez Marabout. On parlera des patients déjà concernés par cette maladie une autre fois, promis. Merci encore, professeur.
Merci, professeur Julia. Je crois qu'il est temps. Il est temps de savoir si l'on est vraiment faite pour être ensemble.
Non,
vous
ne
croyez pas ? Bon, en tout cas, vous connaissez tous l'expression « qui se ressemble s'assemble ». Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans votre chronique « Vite fait, très bien fait ». Sylvie Chocran. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
C'est vrai ou pas ?
Alors, mais écoutez, on emploie cette expression comme ça, mais il pourrait bien y avoir une réalité scientifique derrière ça. Donc, on a montré des photos. Alors, je vais vous décevoir, on va surtout parler des couples amoureux.
Nous, c'est un couple de travail, effectivement.
Voilà, on pourra en parler, des affinités intellectuelles, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment qui se ressemble, s'assemble d'un point de vue amoureux. Donc, on a demandé à des juges externes ou à des algorithmes de juger si des personnes en couple se ressemblaient plus que des personnes donc, tirées au hasard. Et là, les résultats sont formels, quel que soit l'outil utilisé. Les partenaires d'un couple amoureux se ressemblent plus physiquement que de personnes qui seraient tirées au hasard.
C'est dingue, ça. Moi, je pensais que c'était valable pour les chiens, qui ressemblent à leur maître.
Alors, on va parler des animaux après.
D'accord, c'est incroyable, mais ça, c'est valable dans toutes les cultures.
Alors, exactement. Donc, ces études, elles ont été faites partout. Quelle que soit la culture, les partenaires d'un couple se ressemblent. Et au Japon, on a même montré que les partenaires d'un couple sont appariés en taille. Donc, on choisit un partenaire qui a une taille qui nous correspond. Mmh. Et d'ailleurs, en général, ce qu'on dit, c'est que si notre partenaire ne nous ressemble pas, si on regarde parmi nos parents ou parmi des proches de la famille, de la génération de nos parents, il n'y a pas une ressemblance entre notre partenaire et donc le parent du même sexe. Donc, on appelle ça l'homogamie et on a véritablement une tendance à s'accoupler avec quelqu'un qui nous est familier.
Donc, si je comprends bien, Sylvie, si notre partenaire ne nous ressemble pas, il ressemble éventuellement à notre père.
Exactement. Donc, il faut qu'on aille regarder dans notre arbre généalogique.
Sylvie, si on parle d'homogamie, a priori, c'est pour dire que cela ne concerne donc que les êtres humains, mais pas les animaux, donc.
Bah alors, détrompez-vous. C'est la même chose dans le règne animal.
C'est partout pareil.
C'est la même chose, en fait. On est comme les animaux. Donc, les poissons, les chats, les mammifères vont s'accoupler à un être qui ressemble à leurs parents.
Alors, une question se pose. Comment ça se passe chez les enfants adoptés? Ils s'orientent vers des partenaires qui ressemblent à leurs parents adoptés?
Alors, bah écoutez, c'est exactement la question que les scientifiques se sont posées. Donc, en fait, ils ont étudié les préférences, les attirances d'enfants qui avaient été adoptés. Et figurez-vous que là encore, ça marche. Dingue. Donc, un enfant qui est adopté et qui n'est pas de la même culture, donc imaginons un enfant asiatique dans une famille européenne, va plutôt s'accoupler avec un partenaire européen, ou faciès européen, plutôt que asiatique. Et alors, là où ça devient vraiment drôle, c'est que c'est la même chose chez les animaux. Et là, alors là, il va falloir bien suivre.
Donc,
imaginez un agneau qui serait élevé par une chèvre, alors que normalement, les parents de l'agneau, je vous le rappelle, c'est le mouton et la brebis. Donc, imaginons qu'il soit élevé par une chèvre, et ben, à l'âge adulte, il va prendre une chèvre comme partenaire et pas une brebis.
Incroyable.
Et donc, en fait, même les animaux vont s'accoupler avec leurs parents adoptifs.
Julien adore cette histoire à la ferme, hein, finalement.
Mais c'est génial, c'est très scientifique.
Il faut raconter ça aux enfants, l'histoire du soir.
La chèvre. Alors, d'où nous vient cette attirance, Sylvie, pour quelqu'un qui nous ressemble?
Mais en fait, on a dans le cerveau une structure qui s'appelle le gyrus fusiforme, qui est vraiment la région qui est spécialisée pour reconnaître les visages. Et dès la naissance, on va apprendre à reconnaître les visages. Et évidemment, les premières années, vous allez plus regarder les visages de vos parents que votre propre visage. Donc en fait, vous allez avoir tous ces visages familiers qui sont ceux de vos parents et de la génération de vos parents. Et c'est sans doute pour ça qu'à l'âge adulte, on va se tourner vers des visages qui nous sont familiers.
Oui, on dit aussi, Sylvie, qu'avec le temps, on finit par se ressembler. C'est bizarre, ça.
Bah, vous avez raison. Donc, qui se ressemble s'assemble, mais qui s'assemble finit par se ressembler encore plus. Donc, à un moment donné, des chercheurs américains se sont dit mais c'est peut-être que finalement, par mimétisme, on se ressemble de plus en plus. Donc, ils ont pris 517 couples, ils ont montré donc ces photos, et ils ont pris ces couples au début de la relation et 20 ans après. Et l'idée, c'était de voir si 20 ans après, ils se ressemblaient encore plus. Eh bien non, là encore, même au début de leur relation, 20 ans avant, ils se ressemblaient déjà de manière vraiment significative.
Donc finalement, si on se ressemble déjà au départ et qu'en plus au fil du temps, comme vous nous le dites, ce phénomène augmente, au bout de 15 ou 20 ans, ben, l'un devient un autre de nous-mêmes. Julia et moi, à la fin de la saison, normalement, on est les
mêmes.
Alors,
vous ne croyez pas si bien dire. Dingue. Donc, si on enregistre l'activité cérébrale pendant que vous regardez la photo de votre amoureux ou de votre amoureuse, et ben, finalement, vous activez la même région que celle qui s'active quand vous regardez votre propre photo.
C'est
donc,
génial.
En fait, l'autre devient véritablement un autre nous-mêmes.
Donc, Sylvie, les marieuses ou les algorithmes aujourd'hui qui apparient les personnes sur leur physique n'ont pas complètement tort.
Ah ben non, en fait, ces constats scientifiques sont vraiment pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Et il y a plein de sites qui fonctionnent avec des algorithmes de reconnaissance faciale et qui vous proposent quelqu'un qui vous ressemble. À vrai dire, faudrait même donner les photos de ses parents, puisque ça ressemble.
Ça serait plus fiable encore.
Exactement. Mais alors, on n'oublie pas que c'est quand même pas la règle. Il y a aussi des gens qui vont aller chercher leur opposé. Donc, on conseille aux gens de suivre, voilà, leurs instincts,
leur feeling,
vérifier ensuite si leur amoureux ressemble à quelqu'un de leur famille.
Et après, on fait une bonne psychanalyse une fois qu'on s'est aperçu que son mec
ressemble
à son papa.
Non, on se rassure en se disant que c'est normal.
D'accord. Merci beaucoup, Sylvie Chocron, pour ce décryptage passionnant, une fois de plus, sur ses habitudes, ses expressions, qui trouvent donc leurs explications parfois dans la science. On vous retrouve ici tous les mercredis, je le rappelle. Voilà, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve bien sûr demain. Et Julia, demain, on aura une nouvelle question.
Et oui, Mélanie, demain, si vous avez des ados à la maison ou des enfants qui entrent peut-être doucement ou même carrément violemment dans cette période de leur vie, eh bien on va se poser la question ensemble, peut-on les guider sans douleur, sans cri, sans complexe? On vous réserve nos meilleurs conseils contre les portes qui claquent, c'est promis.
Et puis il y aura aussi deux nouveaux sujets de tendance, de la santé, du bien-être. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore sur le répondeur de l'émission le 39 21.